Et les étoiles dans les yeux des enfants, c'est bien aussi.
Enquête du patrimoine.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast de Rubriken Histoire Braise, le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je m'appelle Louane et je suis accompagnée de Stuart pour cet épisode. Et donc on va vous emmener dans cette série de podcasts qui est dédiée à l'immersion et donc à tous ceux qui font vivre le patrimoine.
Alors aujourd'hui nous nous intéressons à la reconstitution historique qui est aussi une manière de diffuser et de valoriser l'histoire et les patrimoines. Pour ce, nous avons l'honneur de recevoir Guillaume Plat, qui est président de la compagnie Quesclen.
Tout d'abord, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter un petit peu?
Pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Guillaume Plat, j'ai 28 ans et je suis président de la compagnie Quesclen. Dans la vie, je suis gendarme, ça c'est mon métier, et le reste du temps, je suis surtout un grand passionné d'histoire.
Comment t'es venue en fait cette idée de faire de la reconstitution, vu que t'as un métier qui est tout autre?
Alors, l'envie de la reconstitution, elle vient d'un parcours qui au départ n'a rien à voir avec la gendarmerie. J'ai commencé par faire une première année en fait en licence d'histoire, puisque c'était ma passion, c'est ce vers quoi je me suis dirigé assez naturellement. Et là-bas, en plus d'avoir l'occasion d'étudier vraiment cette matière qui me passionnait, j'ai rencontré des personnes en fait qui avaient cette passion-là aussi, de l'histoire et notamment pour nous de la période médiévale. Et des personnes qui, comme moi, avaient envie d'aller un peu au-delà des cours, c'est-à-dire que nous, on avait envie d'essayer de toucher un peu l'histoire. Je pense que c'est une envie qu'on a tous quand on est un peu petit. On regarde les livres, on voit les images, on va dans les châteaux, on voit les pierres. Je pense que tous ceux qui ont tenu un petit chevalier papot dans les mains ont un moment ou un autre envie d'enfiler l'armure aussi. Nous, c'était un peu cette envie-là qui nous a poussé dans un premier temps, cette espèce de curiosité de la matière vivante et l'envie, nous aussi, entre guillemets, d'être des chevaliers.
Donc depuis quand exactement est-ce que tu fais de la reconstitution?
Alors maintenant, l'association, ça va faire 10 ans qu'elle existe, et le fait de le dire me le fait un peu réaliser aussi. Et alors ça fait 10 ans que l'association existe, et notre démarche avec mon groupe d'amis a commencé il y a 12 ans. Ça fait maintenant un petit moment que ça nous suit, et on espère que ça va nous suivre encore longtemps parce qu'on s'amuse bien.
Et bien justement, peux-tu nous présenter plus en détail cette compagnie Quesclen? Et surtout, d'où vient votre nom?
Pour les bretonnants, il y en a sûrement qui auront fait le lien. En fait, Quesclen, c'est une des traductions possibles pour du Guesclin. C'est un nom que l'on a évidemment pris en référence à la figure de Bertrand du Guesclin, qui est assez omniprésente dans l'histoire bretonne et dans l'histoire de France, même si c'est plus pour le passage Histoire de France qu'on s'en souvient, puisque c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il est étudié. Et justement, une des raisons, une des vocations de la compagnie, c'est plutôt de faire découvrir sa période bretonne, puisque on a vraiment pour but, nous, de reconstituer le personnage de Bertrand du Guesclin dans ses jeunes années, c'est-à-dire celle qui concerne son implication dans ce qu'on a appelé la guerre de succession de Bretagne entre les partis de Montfort et le parti de Penthièvre. Donc la compagnie Quesclen, c'est une compagnie de reconstitution historique qui essaie d'apporter l'image la plus vraisemblable possible à la base des sources qu'on peut avoir, de toutes les sources, parce que c'est quelque chose qu'on abordera plus tard, d'apporter l'image la plus probable de ce à quoi pouvait ressembler cet homme de guerre, de ce à quoi pouvait ressembler son campement, aussi bien sur la partie civile que militaire. Et après, on est amené occasionnellement, quand on occupe des sites, à aller toucher à des matières un peu connexes, comme le sport, l'hygiène, voilà. On essaie de ne pas se limiter non plus qu'au seul personnage de Bertrand du Guesclin.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle au sein de cette compagnie? Alors peut-être au sein de l'association, dans un premier temps, mais également au sein de cette compagnie.
Moi, je suis le président de facto après élection de la compagnie Quesclen. Alors, mon rôle déjà en tant que président d'association, principalement, c'est d'essayer de définir avec les différents membres déjà les grandes lignes d'évolution qu'on veut donner à l'association d'une année sur l'autre. Le but étant, systématiquement, voilà, on consulte tout le monde, qu'on essaie de voir ensemble vers ce vers quoi on veut évoluer. Et une fois que cela est fait, ben justement, mon but à moi, c'est de faire en sorte de donner vie à ses envies. Donc, de vraiment donner derrière une trajectoire et de définir, entre guillemets, un peu le plan de route pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et notamment, de renouveler chaque année le calendrier de nos prestations, puisque c'est principalement moi qui m'occupe, en fait, du lien entre mon association et les différentes fêtes ou lieux historiques auprès desquels on est amené à intervenir. Au sein de notre campement, quand on est en reconstitution, là c'est un peu différent parce qu'en fait ça dépend tout simplement des prestations dans lesquelles on intervient. On a toujours pour nous de représenter la figure de Bertrand du Guesclin. Donc on essaie de faire en sorte que sur tous nos campements il y ait un Bertrand du Guesclin, mais ce titre-là n'est pas attitré. Et justement, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas typiquement cumuler, par exemple, le président de l'association et Bertrand du Guesclin. C'est pas le but. On a investi sur les deniers de l'association pour composer un équipement sur la base des sources qu'on avait pour Bertrand du Guesclin. Et cet équipement-là, il est fait pour être porté par tout le monde. Donc moi, du coup, j'alterne. Parfois, je suis Bertrand du Guesclin, parfois, je ne le suis pas. Quand je ne le suis pas, je suis soit un piéton, tout simplement, ou quand je décide de mettre un peu plus d'épaisseur d'armure sur moi, je peux commencer à être un homme d'armes, voire un chevalier, dans mes moments fastes, et je reste un peu fluide, justement, dans les rôles que je peux avoir sur place, le but étant que tout le monde puisse, entre guillemets, croquer un peu au Saint Graal chez nous, c'est-à-dire avoir l'occasion de revêtir la cotte d'armes avec l'aigle bicéphale.
Eh bien, je vais poser une question un peu particulière. Si là, demain, j'ai envie d'être un Bertrand du Guesclin au sein de votre compagnie, existe-t-il une formation, une démarche particulière pour justement intégrer cette compagnie et, je dirais, suivre votre expérience? Concrètement, quel est un peu le process pour faire de la reconstitution et plus spécifiquement le type de reconstitution que vous menez?
Bon, alors déjà, si tu viens dans notre compagnie, t'auras pas le choix entre être Bertrand du Guesclin ou n'être personne. Le but, c'est vraiment qu'on ait l'occasion au sein de nos rangs d'avoir des profils assez divers qui reconstitués. Mais c'est aussi d'avoir des profils assez divers en adhérents, parce que justement, il n'y a pas vraiment de process pour venir à la reconstitution. Nous, on cherche pas des profils en particulier. Après, il y a des choses qui vont être assez évidentes et je pense que de toute façon, on ne viendrait pas vers nous si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire avoir une passion de l'histoire, déjà. La curiosité naturelle pour cette matière et puis, évidemment, pas plus précisément, une passion pour le Moyen-Âge. Il faut avoir cette fibre-là, parce que c'est ce qu'on va incarner, et une forme d'appétence pour l'histoire bretonne. Il faut rassembler toutes ces passions et ces curiosités et je pense à sortir le tout aussi d'une envie de rigueur, parce que justement la reconstitution, c'est représenter un personnage, sa troupe, avec le plus de rigueur historique possible, c'est-à-dire se rattacher aux sources qu'on peut avoir, qu'elles soient textuelles, iconographiques, toutes les sources que nous pourrons avoir à disposition comme matériaux d'époque, y compris les sources archéologiques, même si elles sont un peu plus rares, surtout en ce qui concerne le personnage de Bertrand du Guesclin, même si on en retrouve toujours. Il faut cette passion, il faut de la curiosité, et puis il faut aimer un peu le public quand même aussi, parce que on est devant des gens, on est amené à faire des spectacles. Alors le spectacle c'est un mot un peu fourre-tout, donc je vais essayer de préciser un peu quand même. Quand on dit spectacle, c'est-à-dire soit des mêlées de combats, soit des représentations un peu scéniques, même si c'est plus rare pour nous. Et puis après, c'est pas mal d'interventions qui ont des visées pédagogiques, c'est-à-dire des ateliers thématiques que l'on source et qu'on va ensuite présenter devant un public pour le sensibiliser, soit à la figure de Bertrand du Guesclin, soit à une thématique de reconstitution en lien avec la période que l'on s'est donnée.
Une question qu'on n'a pas posée et qui est pourtant centrale en fait, est-ce que tu peux brièvement nous présenter Bertrand du Guesclin et pourquoi en fait il est important pour l'histoire bretonne et française?
Alors ça, c'est une question qui va pas être facile. Si on veut aller un peu synthétiquement, Bertrand du Guesclin, c'est un noble breton du XIVe siècle qui a son ressort territorial, celui de sa famille, dans la région de Dinan, on va dire, la Meaux-de-Bron, plus précisément, pour ceux qui connaîtront. Et il va prendre une ampleur régionale, au sens moderne du terme, ducal à son époque, puis à l'échelle nationale, donc du royaume à son époque, parce que ça va être un homme de guerre assez talentueux, qui va rapidement se faire connaître, d'abord pendant la guerre de succession de Bretagne, où il va prendre le parti de Penthièvre contre le parti de Montfort, parti de Penthièvre qui était rattaché plus ou moins, à la couronne de France, en tout cas qui était aidée par le royaume de France, puisque la dame de Penthièvre, qui était une des héritières potentielles du duché, avait ses droits représentés par son mari, qui était Charles de Blois, qui était un proche du roi de France. Donc c'est comme ça qu'il se fait connaître en Bretagne, puis dans le royaume, et à la suite de la guerre de succession, qui va être perdue par son parti, il va continuer son travail d'homme de guerre, et parfois on a eu le terme d'aimant à routier, peut-être quelque chose qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard, et il va le mettre au service du roi de France jusqu'à en devenir le connétable.
Et avant que je puisse laisser la main à Louane, tu parlais tout à l'heure que voilà, pour intégrer, ou en tout cas pour se lancer dans ce type de reconstitution, il fallait avoir une fibre pour la matière historique, pour la matière médiévale. Et dans votre association, dans votre compagnie, vous avez en tout cas cette spécificité d'être une compagnie bretonne. Quelle place cet aspect occupe-t-il au sein de votre démarche?
Alors, la dimension bretonne dans notre démarche, elle est importante. Déjà parce que, comme je disais, on a choisi de représenter Bertrand du Guesclin dans la période où il est actif en Bretagne. C'est un noble breton qui est très impliqué dans le mariage territorial de son époque et qui va prendre parti dans des querelles qui sont essentiellement ducales au départ. Et pour nous, qui avons grandi en Bretagne et qui avons eu cette passion pour la période médiévale et pour notre région aussi, on est forcément un peu chauvin, et ben c'est le choix de la figure de Bertrand du Guesclin, il est pas innocent, et le fait de le recentrer dans ses jeunes années au moment où il est opérant dans le duché de Bretagne ne l'est pas non plus. Pour nous, c'était important de pouvoir lier à la fois ce personnage qui nous passionnait et, entre guillemets, l'histoire du duché, qui est quand même une histoire fabuleuse et une trajectoire assez unique parmi toutes les principautés territoriales qui ont pu composer le royaume de France avant qu'elle ne soit amenée petit à petit à disparaître.
C'est quoi les différentes étapes pour créer une reconstitution?
Alors, je suis désolé, je vais pas être très original ni très aidant, je vais renvoyer la balle. Étape, c'est-à-dire?
Comment on s'y prend pour créer une reconstitution? C'est un événement particulier ou...
Alors, comment ça se passe pour créer une compagnie de reconstitution? Déjà, ça se passe bien. Alors, sur le plan purement administratif, ce sont des déclarations par CERFA. Il faut avoir un bureau qui est en place. Vous devez connaître ça aussi. C'est pas la partie la plus fun de l'histoire. Une fois qu'on a vaincu l'administration, on peut se concentrer sur le plus intéressant. Comment on compose véritablement une association de reconstitution historique? D'abord, on commence par faire des recherches. Donc ça, c'est un peu ce qui nous distinguera, entre guillemets, nous, les reconstituteurs au sens large. Hein. Il n'y a pas que nous. C'est un monde qui est finalement assez vaste quand on se penche dessus. Et il y a beaucoup de gens très compétents en la matière, notamment en Bretagne. Donc voilà, ça, c'est petite fierté qu'on peut avoir. Donc on fait des recherches parce que pour pouvoir faire les choses bien et savoir vers quoi se diriger en premiers achats, il faut qu'on ait déjà commencé à étudier un peu les sources, pour tout simplement avoir des modèles historiques qu'on va essayer de reproduire ou de faire reproduire. Et si, comme nous, vous commencez par être des curieux, vous commencez par faire des erreurs. C'est-à-dire que nous, au début, on a acheté les pièces d'armure qui nous faisaient envie, parce qu'on avait juste envie de porter une armure, et donc on a aggloméré tout ce qui nous semblait un peu joli, tout ce qu'on avait plus ou moins vu dans les livres d'histoire qu'on avait épluché jusqu'à maintenant, et vient un moment où on se rend compte que c'est bien, mais c'est pas cohérent, et on a envie de plus, parce que plus on creuse avec l'histoire, et je pense que tous ceux qui ont étudié l'histoire le diront, plus on a envie de recreuser encore un peu plus pour savoir exactement comment c'était. Je pense que la machine à remonter le temps, c'est un rêve qu'on a tous. Donc on creuse, et on se rend compte qu'on a fait des erreurs, et petit à petit, on se corrige. Et on en revient à refaire des recherches. Voilà. Si on l'a pas fait dès le départ, on le fait en cours de route, et avec ça, on recoupe tout ce dont on a besoin. Par tout ce dont on a besoin, j'entends le campement, les tenues. J'aurais pu commencer par ça d'ailleurs, les tenues de chacun, donc une tenue civile, une tenue militaire pour ceux qui veulent faire des militaires. En fonction de son profil, de son statut, de son rang, on va plus ou moins pousser les pièces d'armure ou les pièces de vêtements. Et après, on se cherche un campement, donc des tentes, on cherche du mobilier, on essaie de travailler un peu sur le couchage aussi, même si c'est pas toujours facile le couchage historique, parce que ça a quand même beaucoup évolué entre cette époque-là et maintenant. Donc, même quand on sait comment c'était fait, c'est pas toujours facile d'accepter d'aller dormir dans un couchage reconstitué, surtout en hiver sous une tente. Là, on rigole pas trop, même s'il y a moyen, hein, toujours, quand on se penche sur la question. Si eux ont vaincu le froid, on a moyen de le vaincre aussi. Mais on est quand même un peu plus douillé. Donc, voilà. Et une fois qu'on a tout ce matériel-là de rassembler, eh ben, on se rapproche de grandes organisations pour essayer de trouver des endroits où opérer. Donc, soit on le fait bénévolement, en fonction des lieux, parce que tous les lieux ne sont pas aptes à nous donner une rémunération. Soit, pour les grands événements, on fait des contrats pour lesquels on est payé, tout simplement, pour venir se présenter, reconstituer ce qu'on appelle l'hôtel de Bertrand du Guesclin, c'est-à-dire Bertrand du Guesclin et sa suite, dans son campement. Et ça, ça peut être dans des fêtes médiévales qui sont proches de sites historiques ou directement dans des sites historiques, donc des châteaux, des manoirs médiévaux, avec un médiateur qui a décidé de valoriser son site par l'apport de l'histoire vivante.
Donc tu nous as parlé un petit peu du matériel, ça représente un petit peu en termes une fourchette de prix, ça représente combien la reconstitution historique ? Il y a le matériel qui est acheté, il y a aussi le coût des déplacements, de la participation à l'événement, ça fait quand même plusieurs choses qu'il faut prendre en compte.
C'est très compliqué en fait à chiffrer. Alors au début, faut tout faire soi-même, c'est-à-dire que on paie tout, il faut son équipement, les déplacements au début on les paie, et puis petit à petit la compagnie prend de l'ampleur, et puis elle commence à prendre aussi des choses en charge. Parce que c'est vrai que la reconstitution historique, c'est quelque chose qui peut être parfois assez onéreux selon le profil qu'on choisit. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que pour commencer en reconstitution historique, il y a aujourd'hui, avec la démocratisation plus ou moins de cette pratique, moyen de se fournir de l'équipement tout à fait correct, à des prix qui le sont aussi. Donc, par rapport au moment où on a commencé, c'est quand même un peu plus simple maintenant. J'aurais du mal à donner une fourchette de prix. Moi, j'ai fait mon équipement au fil de l'eau, c'est-à-dire, comme je vous le disais, j'ai commencé par faire des erreurs, donc j'ai acheté des choses qui n'avaient pas de lien, puis petit à petit, j'ai racheté des pièces, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des pièces que je pouvais garder et d'autres pas, et j'ai recomplété, et je vous avoue que j'ai pas tenu le compte. On sait que c'est quelque chose qui, au départ, peut être un frein, l'achat du matériel, parce que au début, il faut tout acheter. Alors ce qu'on dit souvent aux personnes qui arrivent chez nous, c'est d'abord un costume civil, simple, correct, comme ça tu peux venir avec nous, on peut te montrer ce que c'est, tu peux vivre ce que c'est, et si ça te plaît, tu vas pouvoir petit à petit aller plus loin, en rajoutant des pièces d'armure. Ce qu'on a fait, c'est que, ou alors pas de pièces d'armure pour ceux qui veulent pas se battre d'ailleurs, hein, on cherche pas que des combattants, bien au contraire. Ce que nous, on essaie de faire maintenant avec l'association, vu qu'on a quand même un peu d'années d'existence, et que c'est pas la première année, fort heureusement, qu'on arrive à se faire payer pour ce qu'on apporte aux différents sites, c'est qu'en fait, d'une année sur l'autre, on réinvestit quasiment tout ce que l'on gagne en matériel de reconstitution et en matériel pédagogique. Et dans matériel de reconstitution, il y a du matériel à usage collectif, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, on fournit le campement. Donc la personne qui vient n'a pas besoin d'acheter de tente, pas besoin d'acheter de meubles, elle a même pas besoin d'acheter au tout début une vaisselle, même si c'est quelque chose qui est conseillé, parce que sa vaisselle c'est quand même assez personnel. Mais on peut fournir, entre guillemets, un espèce de starter pack, à l'exception évidemment du costume civil, et encore que, on essaie là-dessus aussi d'aider, parce qu'on sait que c'est pas facile, et qu'en même temps, quand on arrive, on a tout de suite envie de faire le chevalier. Alors il y en a qui arrivent avec des profils très précis aussi, et qui disent « moi je veux être marchand », ou « moi je veux faire un lettré ». Et ceux-là, on est assez content de les avoir parce que du coup, ils nous apportent des profils qu'on n'a pas encore, des profils un peu atypiques, et on est toujours en recherche de profils. On essaie vraiment d'aider par l'apport de matériel au sein de l'association. Donc, chaque année, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit, et on essaie de tenir un certain nombre de matériels à disposition des nouveaux arrivants pour leur faciliter les choses et faire en sorte qu'ils puissent échelonner les différents achats. Ce qui fait qu'à la fin, là, on a intégré récemment 3 nouveaux membres, et l'achat du matériel, petit à petit, ça se passe très bien. Et ça les empêche pas de venir avec nous, et ça les empêche pas non plus d'aller combattre, et du coup, ça leur fait une expérience complète dès la première année. Alors on peut pas le faire si on a 10 personnes qui arrivent d'un coup, mais comme c'est quand même très rare qu'on ait 10 personnes qui arrivent d'un coup, pour ne pas dire que ça ne nous est jamais arrivé, on arrive avec le matériel à vraiment appuyer cette démarche-là, appuyer les nouveaux, et faire en sorte que dès le départ, la compagnie les aide à profiter de chaque événement et à pouvoir venir y participer. Parce que c'est un peu ça le problème qu'on peut avoir avec la reconstitution. C'est comme on a un cahier des charges qui est très précis, ben on ne peut pas faire venir n'importe qui avec n'importe quel équipement. Donc ben, si on n'est pas équipé, on ne peut pas venir. D'où aussi l'obligation que nous on s'est fixée d'acheter du matériel pour aider les nouveaux à venir. C'est que sinon on sait que ce serait juste beaucoup trop frustrant de rejoindre une association, d'avoir toutes les promesses, les photos, les images de ce qu'on fait, et la première année d'entendre dire « bah non, désolé, ton équipement n'est pas complet, tu ne viendras pas avec nous ».
Donc il y a beaucoup de sorties d'argent avec la reconstitution historique, ça coûte assez cher, mais est-ce que votre compagnie elle a également des arrivées d'argent? C'est quoi exactement en fait votre modèle économique?
Oui, la compagnie a des rentrées d'argent, fort heureusement, parce qu'encore une fois, c'est ça qui nous permet de vivre et puis d'aller chercher le... plus, voilà, chaque année, un peu plus de détails, un peu plus de décors, un peu plus de tenues, que ce soit pour notre personnage de Bertrand du Guesclin ou les nouveaux arrivants. Le modèle économique, en fait, il est assez simple. Nous avons des prestations au long de l'année. Avant, c'était souvent pendant la période de l'été, évidemment, puisque c'est là que les sites sont à plein régime. Les sites historiques sont ouverts à plein régime, donc c'est là aussi qu'ils ont envie d'avoir des animations. Aujourd'hui, ça s'échelonne quand même pas mal, mine de rien, puisqu'on a des contrats qui vont de maintenant avril jusqu'à octobre pour ce qu'on a eu le plus tardif. Donc finalement, on a une période d'activité qui est assez large. Et sur cette période-là, donc on intervient sur des sites. La plupart nous paient pour nos prestations en fonction de ce qu'on leur apporte et de ce qu'eux aussi veulent qu'on leur apporte. On dresse un devis précis et chiffré. Et derrière, sur la base de ce qu'on aura gagné avec nos interventions, on réinvestit. Donc on a, entre guillemets, des dépenses fixes, pour rentrer dans les détails, donc notre assurance. Et après, on se garde des enveloppes pour certains frais d'essence quand il s'agit des moyens de déplacement qui sont propres à la compagnie. On a des frais de bouche et on se garde un peu d'argent au cas où. C'est notre petit matelas. Et une fois qu'on a fait ça, tout le reste, on le réinvestit intégralement.
Juste une question pour terminer sur cette partie un peu financière et administrative. J'imagine que vous devez avoir une forme d'assurance, puisque pour tant les objets que vous avez qui peuvent être fragiles ou qui peuvent être endommagés, que éventuellement, si jamais vous vous êtes amené à faire des combats, que vous blessiez ou vous blessiez d'autres gens qui ne sont pas forcément de votre compagnie. Comment ça marche en termes d'assurance? Et est-ce que cette partie que vous gardez en réserve, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié à d'autres choses?
Bon, alors là, c'est la tuile. J'aurais dû relire mon contrat. Non, alors en fait, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans une compagnie de reconstitution, c'est que les assureurs sont pas très à l'aise avec nous parce qu'ils savent jamais dans quelle case nous mettre. Donc, nous, on s'est dirigé vers les assureurs qu'on avait à titre individuel. On leur a expliqué ce qu'on faisait. Donc, on leur a dit exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, nous avons du matériel. On a du matériel qui coûte un peu cher. On a du matériel atypique. On est amené à faire du feu sur notre campement. On fait du combat. Et qui dit combat dit en effet, potentiellement, on se blesse. T'en as été le témoin, d'ailleurs. Voilà, une fête des remparts qui s'est finie de manière un peu sanglante pour moi, mais c'est ma faute. Parce qu'il y a des règles de sécurité qu'il faut appliquer, et si on les suit, tout se passe bien. Et moi, j'en ai transgressé une, je l'ai payée, c'est comme ça. Mais quand on encadre bien les choses, tout va bien. Et puis oui, on sait jamais, on peut être amené à blesser les autres. Enfin voilà, à partir du moment en fait où on se bat de toute façon, avec une armure, mais qu'on prend des épées métalliques pour faire du combat à la touche, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas scénarisé, et même parmi ceux qui scénarisent, il y a toujours des blessés. Oui, il faut pouvoir être couvert par rapport à ça. Donc nous, on nous a composé, notre assurance nous a composé une espèce d'assurance un peu hybride où en gros on est sur une assurance qui est entre l'association, le club de spectacle et le club sportif. Donc je crois de mémoire qu'on a même une clause cascade, voilà, parmi nos prestations d'assurance. Donc on est sur une couverture qui, mine de rien, peut coûter un petit peu, parce que forcément, les assureurs, quand ils savent pas, ils balaient large. Et s'ils balaient large, ça coûte cher. Mais voilà, c'est quelque chose qui à prendre en compte. Maintenant, on est habitué à notre petit exercice comptable, donc on se garde le matelas qu'il faut, et on lésine pas sur l'assurance, parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, ça peut avoir des implications quand même un peu graves. Des implications physiques, ça c'est évidemment celle qu'on essaie de fuir le plus possible, parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir des blessés, ni chez nous, ni chez les autres, mais dès qu'on fait une activité, ça peut arriver, donc on se protège au maximum, et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de notre assurance, donc c'est qu'a priori, on fait les choses bien, et ensuite, surtout, on a aussi du matériel. Et comme le matériel de reconstitution coûte cher, bah, à la fin, on a un campement qui, mine de rien, a un certain prix, une certaine valeur. Donc, bah, c'est vrai que c'est important, là aussi, et d'être bien couvert. Donc, pour ça non plus, les assurances des biens matériels, on ne lésine pas. Et on fait en sorte d'être le plus protégé possible. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu chichiteux avec les assureurs, parce que quand on leur explique ce qu'on fait, déjà, il y en a beaucoup qui savent tout simplement pas de quoi on est en train de leur parler. Et quand on leur décrit les choses, ça les aide pas tellement à comprendre ce qu'on est en train de faire. Faut s'armer d'un peu de patience, faut bien tout leur décrire, et puis à la fin, faut lire les contrats qu'ils nous envoient pour voir si tout est bien couvert dans ce qu'on va faire. Et voilà. Mais ça se fait très bien. On trouve toujours.
Merci pour cette réponse. Maintenant, on va passer sur quelques questions qui concernent plutôt votre rapport avec le public, ou je voudrais même dire les publics, puisque vous allez avoir différentes personnes qui vont pouvoir assister à vos reconstitutions. Et justement, concernant ce public-là, est-ce que il faut avoir de base des connaissances, des codes particuliers pour comprendre et pour apprécier une reconstitution?
Alors, c'est là tu soulignes quelque chose qui en effet est très important, c'est que c'est pas un rapport à un public, c'est un rapport à des publics. Parce que, en effet, tout le monde vient visiter les lieux historiques, et c'est heureux. Tout le monde y a accès, donc tout le monde vient, et on a des gens qui ont des connaissances historiques plus ou moins étoffées. Donc ça, au fur et à mesure des prestations, on s'est habitué à discuter avec tout type de personnes, de celles qui trouvent juste ça très joli, aime beaucoup les châteaux, a eu la surprise de tomber sur nous quand elle a poussé la porte, a trouvé intéressant ou joli ce que l'on faisait, et qui va partir de zéro. Et on a des amateurs très éclairés qui, eux, vont nous poser des questions beaucoup plus pointues, parfois jusqu'à des détails de matériel, parce que eux savent. Donc, on s'habitue assez rapidement, quand on fait de la reconstitution, à avoir de tout en termes d'interlocuteurs. Et c'est ça qui est d'ailleurs très agréable, c'est que d'une personne à l'autre, nos discussions ne sont jamais les mêmes. Par contre, le bon côté qu'on a forcément, c'est que si la personne est venue visiter un château, c'est qu'a priori qu'elle aime quand même un petit peu le Moyen-Âge. Donc on tombe toujours sur des gens qui sont intéressés, et ça c'est un bonheur sans cesse renouvelé. Maintenant, est-ce qu'il faut que ces personnes-là aient un minimum de bagage historique? Je vais faire une réponse qui n'est pas très originale, à la fois oui et non, pour profiter de nous, dans le sens où toute personne qui vient nous voir peut trouver ce que l'on fait beau, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout la reconstitution, qui n'ont pas de notion d'histoire très développée, mais qui peuvent tout à fait apprécier le fait que le campement est joli, les tenues sont jolies, les armures sont jolies, ça leur fait plaisir, et justement, ils viennent nous voir parce qu'ils trouvent ça beau. On discute avec eux, et nous, derrière, on peut étendre à l'histoire au sens un peu plus large. Néanmoins, évidemment, quand on fait des fêtes médiévales, on a tous assisté à des fêtes médiévales avec des intervenants qui sont très différents. Et même parfois, les organisateurs de fêtes ne savent pas trop comment utiliser le terme de reconstitution. Parce que aujourd'hui, c'est utilisé un peu par tout le monde, parce que les gens ont un peu pris pour acquis qu'à partir du moment où on met des tenues qui seraient affiliées à une certaine époque, on la reconstitue. C'est pas le cas. Comme je le disais au départ, la reconstitution, vraiment, c'est se baser sur les sources historiques qu'on a à notre disposition pour pouvoir essayer de reproduire des équipements, des tenues, des meubles, et à travers les écrits, potentiellement des actes de la vie quotidienne de l'époque, qu'il soit civil ou guerrier, et ça demande un peu de connaissances pour être identifié. Je ne suis pas persuadé, je suis même sûr que dans une fête médiévale où il peut y avoir, comme a dit Nan, de la reconstitution et de l'évocation, moi ce que j'appelle de l'évocation, c'est-à-dire des gens qui ont une passion pour le Moyen-Âge, qui ont envie de se rapprocher un peu de cette matière-là parce que ça leur parle, mais qui ne font pas de la reconstitution parce qu'en fait, ils ont fait comme nous au début, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce qui leur faisait envie. Et c'est absolument pas un reproche d'ailleurs que je leur fais en disant ça, mais qui ont pris des tenues qui leur faisaient envie, qui les ont rassemblées sur eux et qui se promènent avec ou qui font des ateliers avec, parce que c'est là qu'ils trouvent leur plaisir. Je suis persuadé quelqu'un qui vient et qui n'a pas de bagage historique ne peut pas, et c'est normal, faire la différence entre des gens comme nous qui avons essayé de reconstituer une tenue, qui est, on va pas dire complètement crédible, mais en tout cas qui essaie de se rapprocher de quelque chose de crédible par rapport à ce qui pouvait être porté à l'époque, et quelqu'un qui s'est juste fait plaisir avec des accessoires médiévaux, médiévalisants. Voilà. Je pense que notre travail, justement, notre gros travail, il est là. Et quand on intervient dans des fêtes médiévales ou sur des sites, c'est des choses qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire expliquer aux gens notre démarche. Parce que souvent, on dit, mais quand les gens viennent nous voir à la fin de nos prestations, de nos démonstrations, des toutes petites conférences qu'on peut donner, je dis ça très humblement, hein, parce qu'on n'est pas historien, donc on n'a pas prétention à faire de grandes conférences, mais quand on intervient pour présenter le fruit de notre travail et de nos recherches en condition avec nos tenues sur nous, eh bien, on a beaucoup de gens qui viennent et qui font « Ah oui, j'ai vu de la reconstitution à tel endroit » ou « Ah oui, dans telle fête, j'ai vu des gens qui faisaient comme vous ». Et nous, on les connaît un peu, les fêtes de Bretagne, parce qu'on les a un peu toutes faites quand on a commencé. Maintenant, on a moins l'occasion, c'est presque un peu dommage d'ailleurs. De temps en temps, on aimerait bien se faire le petit plaisir de juste venir en visiteur, mais c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps. Et on, du coup, on prend le temps de leur dire « Ben non ». C'est pas comme nous. Et encore une fois, on est très humble quand on dit ça, hein. C'est pas comme nous, c'est pas un jugement, hein. C'est juste, voilà. Nous, on fait de la reconstitution, eux font de l'évocation, voilà ce que c'est que de la reconstitution, et voilà ce que c'est que de l'évocation. Voilà pourquoi c'est différent.
Concrètement, comment vous faites le moment venu, c'est-à-dire, est-ce que vous faites donc un scénario, et donc les gens regardent par eux-mêmes et, je dirais, font leurs propres conclusions? Ou est-ce que, comme tu semblais l'indiquer, il y a une interaction qui se fait entre vous et le public pour venir spécifier certains aspects?
C'est très dépendant du lieu où on intervient. Parce que comme on intervient dans le cadre d'un contrat, on nous demande des prestations particulières. Donc parfois, c'est tout simplement de venir planter notre tente, vivre, c'est-à-dire présenter entre guillemets un tableau vivant de la période, et participer à des événements, des batailles, des montres d'armes, une messe reconstituée, voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie tableau, on interagit un peu moins avec le public, c'est plus notre partie spectacle. À Dinan, on avait tenté de reconstituer au plus proche, avec évidemment les quelques contraintes de moyens qu'on pouvait avoir, le duel entre Bertrand du Guesclin et Thomas Canterbury. Donc ça, c'est vraiment la partie spectacle, et là-dessus, je vais peut-être te surprendre un peu, mais finalement, bah, nous, on aime faire les deux, et on est amené vraiment à faire les deux. Et puis après, on a vraiment la partie médiation, où là, pour le coup, on peut être, je vais dire mandaté, le terme est peut-être pas exactement le bon, mais oui, voilà, on est engagé, tout simplement, oui, voilà, par un château, dans le cadre d'une thématique qu'il voudrait nous voir aborder, par exemple... c'était l'année dernière, le château de Fougères qui avait une exposition de poche sur les blessés, les malades au Moyen-Âge, et qui voulait nous avoir, et nous on leur avait dit, bah écoutez, les blessés, les malades, c'est peut-être pas trop notre domaine. Par contre, la préparation du corps, le sport, et comment est-ce qu'on prévient les blessures par l'entraînement, ça on peut le faire. Donc là, c'était vraiment une intervention où on prenait du public sur, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure d'intervention, où on avait des explications précises sur ce que nous, on avait trouvé dans les sources par rapport au sport. Donc là, c'était vraiment la partie médiation. Et dans le fond, on reproduisait des exercices d'époque.
Tu parlais tout à l'heure de matériel pédagogique. Et je voulais savoir, bah, est-ce que tu as un exemple à nous citer de ce matériel pédagogique qui est, j'imagine, donc présenté au public?
Eh ben, je vais rebondir justement sur la prestation dont on parlait à l'instant, la prestation à Fougères. Matériel pédagogique, c'est par exemple pour nous permettre justement de lier à la fois l'histoire un peu touchée du doigt, c'est-à-dire les équipements qu'on a sur nous, les connaissances qu'on apporte à travers nos présentations et des supports d'époque. On a pris le parti, pour nous aider dans notre présentation, d'imprimer des enluminures de la période qui nous concerne, où on voit des exercices physiques, donc des enluminures qui datent des années 1340 jusqu'à 1370, où on voit des personnes qui sont en train de faire les différents exercices dont on parle. Donc vraiment, ça c'est du matériel qui est purement historique, et on le met en valeur sur des tablettes. Quand je dis tablette, c'est pas tablette numérique, hein, c'est de la tablette en bois sur laquelle on, voilà, on fait un petit montage esthétique, et on se sert justement de ce matériel-là pour le montrer, pour, voilà, pour montrer aux gens et pour illustrer, en faisant ce petit retour vraiment à la source, le propos qu'on est en train de développer avec eux.
Quand on fait de la reconstitution historique, il y a aussi la question de la réalité historique et comment on fait pour se rapprocher au mieux de cette réalité historique. T'as un petit peu mentionné la question des sources. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces sources?
Déjà, je vais, à mon avis, décevoir quelques personnes, et je vais pas en surprendre beaucoup quand je dis que bah, la réalité historique, on l'a pas. on l'atteindra jamais, on le sait. C'est comme ça, je parlais du rêve de la machine à remonter le temps en début d'interview, c'est le cas, hein. On aimerait tous avoir ça, mais on l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de bricoler au mieux avec les sources qu'on a à notre disposition. Pour développer la partie source, justement, pareil, ça va recouper ce que j'ai abordé un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types de sources qui sont à notre disposition. On a les sources écrites. Alors là, c'est assez vaste, c'est-à-dire que bah, au fur et à mesure, moi je sais que je me suis composé une petite bibliothèque. Par source écrite, qu'est-ce qu'on a ? On a les chroniques, déjà. Bon, alors il faut faire attention aux chroniqueurs, tous ceux qui font de l'histoire vous le diront. Attention aux chroniqueurs, parce qu'ils sont pas toujours objectifs, mais on a les chroniques, donc avec des personnes qui justement vont rédiger une œuvre qui aura à l'époque une portée un peu biographique, si possible. Ça a été le cas notamment pour Du Guesclin, il y a eu la chronique de Jean Froissart, qui est une de celles qui a permis de garder vraiment le souvenir de ce personnage-là. Et pourquoi je dis qu'il faut faire attention, c'est que ces chroniques, souvent, ce sont des commandes. C'est soit la personne en question qui commande une chronique pour lui, soit sa famille après sa mort qui commande une chronique pour qu'on garde le souvenir de ses faits d'armes, soit c'est un pouvoir politique qui demande une chronique. Là, en l'occurrence, c'est le royaume de France qui avait demandé cette chronique sur Bertrand du Guesclin parce qu'on voulait garder l'image de Bertrand du Guesclin, de ce qu'il a fait pour le royaume, cette image un peu de l'homme providentiel qui vient et qui, en fait, après les désastres militaires qu'ont connu les armées françaises, change un peu la stratégie du royaume, parvient à reconquérir quand même une bonne partie du territoire, et en disant ça, on commence déjà un peu justement à rentrer dans la partie pourquoi faut se méfier des chroniques. Et on sait que Froissart, parfois, il a eu tendance un peu à exagérer le trait quand même. On aime beaucoup Bertrand du Guesclin, mais on sait qu'il a exagéré le trait. Des fois, on sait qu'il en a fait plus parce que y avait quand même l'idée derrière pour les rois de France de faire un héros. Mais il faut s'en méfier un peu. Et puis à côté, on a des sources qui sont pas celles qu'on attendait. On a des inventaires de villes. C'est-à-dire que les villes font des inventaires de leurs moyens. On a les inventaires royaux. Là, par exemple, on a les inventaires des équipements militaires qui sont à disposition pour le roi de France dans telle place forte. Donc là, du coup, on commence à prendre des notes. On fait « Ah tiens, ils avaient tel équipement, d'accord. Bon, bah cet équipement, du coup, on sait qu'on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient quoi comme engin de siège ? Ah d'accord, donc ça, c'est relaté, on a cet engin-là, très bien. Bon, bah ça, on le garde aussi, ça peut nous servir. Après, quand on creuse un peu, on se dit « Tiens, mais comment ils faisaient pour les payer ? » Ah, bah on a les registres du Parlement de Paris, par exemple, qui expliquent comment est-ce qu'ils faisaient pour solder les hommes qui étaient engagés. Comment on fait pour engager ? Donc là, on a les registres, les testaments. Parce que quand on a quelqu'un qui meurt, on dresse son testament, donc en fait on dresse la liste de ses biens. Donc dans la liste de ses biens, on a ses vêtements, quand c'est un chevalier, on a les pièces de son armure, mais on a son mobilier aussi. Bon, et encore, là je fais qu'effleurer les sources écrites, mais donc on commence déjà à voir un peu tout le panel qu'on a du côté des sources écrites. Après, on a les sources iconographiques. Dans les sources iconographiques, on a donc les enluminures, j'en parlais un petit peu avant par rapport justement au matériel pédagogique où on les réemploie, on a aussi les gisants. Donc les gisants qui sont ces représentations sur les monuments funéraires des nobles et des chevaliers, mais pas que, pour les prêtres aussi, et parfois aussi pour les bourgeois, on a des dalles funéraires sur lesquelles on sculpte soit des statues, soit un portrait en deux dimensions sur la dalle de la personne. Donc là c'est pareil, c'est très pratique parce que comme on sait que ça a été fait avec un souci de réalisme, alors plus ou moins bien en fonction du budget du commanditaire, mais avec un souci de réalisme, on peut se baser là-dessus. On regarde comment les différentes pièces d'armure qui sont représentées. Pour les vêtements, on regarde les coupes. Donc ça fait partie de ce qu'on peut avoir comme source iconographique. Et puis pour finir, on a les sources archéologiques, qui sont à la fois les plus évidentes et les plus compliquées, entre guillemets, déjà parce qu'on n'en a pas tant que ça. On a la chance en France d'avoir commencer assez tôt à bien répertorier tout ce qu'on trouvait. Sauf que du coup, on a tellement répertorié à des époques un peu différentes depuis la vague un peu romantique, qui a plus ou moins bien répertorié les choses d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, que y a des fois, si ça a été mal répertorié, ou juste il y a tellement de répertoires au sein des lieux de conservation, que c'est pas si facile que ça de réussir à ressortir à travers toutes ces sources archéologiques, tous ces condensés de ce qu'on a pu trouver, ce qui va nous intéresser, nous, sur notre période. Comme nous, on a des petites envies où on se dit, tiens, on aimerait bien trouver de la vaisselle bretonne, par exemple. Bon, les sources archéologiques, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais ça reste un matériel, et on en trouve, notamment récemment, on a eu des très belles fouilles qui ont été faites au château du Guildo, pas très loin de Dinan. Et on a trouvé beaucoup de vaisselle là-bas, donc on est très content. On essaie de mettre la main sur le fond archéologique complet, et on va s'en resservir. Parce que derrière, on fait appel à des artisans pour reproduire les pièces historiques qui ont pu être retrouvées. Voilà un peu sur quoi on se base.
Alors, en effet, tu parles de reconstitution archéologique, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Quel est le terme précis pour de la vaisselle qui va être refait en inspiration? J'avais entendu parler de ça. Si c'est de l'archéologie expérimentale, peut-être.
Oui, tout à fait. C'est ce que certains vont appeler. Alors, soit l'archéologie expérimentale. Après, moi, je l'emploie pas trop pour nous, parce que l'archéologie expérimentale, souvent, enfin, moi, ce que je considère être de l'archéologie expérimentale, ce sont des chercheurs qui s'associent avec des groupes de reconstituteurs pour essayer justement de lier leurs deux connaissances, c'est-à-dire les connaissances scientifiques universitaires d'un côté, et nous l'habitude qu'on peut avoir d'essayer de leur donner corps sur le terrain, pour redonner vie à des objets, des tenues, voilà. C'est pas vraiment le terme que j'emploierais, je pense que le terme d'histoire vivante est un peu plus juste. Déjà parce qu'il est un peu moins sérieux, et qu'il faut admettre que voilà, nous, on est ni historiens, ni chercheurs. Donc on n'a pas la prétention de faire de l'archéologie expérimentale, tout simplement parce qu'on n'a pas les capacités de le faire. Mais on fait de l'histoire vivante, c'est-à-dire qu'on trouve des sources, et on a soit la possibilité, nous, de les reproduire, soit on a des artisans qu'on connaît, et on va essayer de voir avec eux s'ils peuvent nous refaire les pièces qu'on a trouvées.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de différents événements où participe la compagnie. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le juste équilibre entre réalité historique et la mise en image pour le public?
Cet équilibre, il est à la fois très facile et pas très facile à trouver. Pourquoi je dis très facile? Parce que déjà, en ce qui concerne les équipements qu'on emporte, si c'est pas sourcé, on les prend pas. Donc ça, du coup, le tri, entre guillemets, il est vite fait. Dit vite fait parce que du coup, il a fallu faire les recherches avant quand même pour se faire cette banque de sources pour attester de ce qu'on emporte. Mais du coup, ce qu'on amène devant le public, on sait que c'est quelque chose où on a, si on nous pose la question, une source derrière à convoquer pour justifier que c'est présent sur notre campement. Après, en effet, comme on a pour but de faire de la médiation culturelle, on sait qu'il va falloir qu'on fasse quelques arrangements pour que le public puisse plus facilement se projeter dans ce qu'on lui amène. Parce que nous, on a fait l'effort de faire des recherches et d'aller chercher du matériel historique le plus précis possible parce que ça nous passionne. Mais comme on l'a dit avant, on a affaire à des publics. Et il y a des gens qui sont pas là, en fait, pour faire ça. Le but, c'est pas de les amener à faire ça avec nous ou de leur dire en détail comment est-ce qu'on est arrivé à notre résultat. Le but, c'est de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on leur a apporté à notre échelle, on va dire, l'image la plus crédible possible de ce qu'on entend représenter. Une fois qu'on a posé ce bilan-là avec eux, et ben forcément, on l'a vu par exemple avec le matériel pédagogique, on va aussi faire appel à du matériel qui n'est pas forcément purement historique. Parce que évidemment, à l'époque, on n'a pas de tablette en bois avec des enluminures dessus pour expliquer à des gens ce qu'on fait. Et là, du coup, je vais donner l'impression que je me contredis, mais pas complètement. C'est-à-dire que, évidemment, sur notre campement, il y a quand même quelques éléments qui sont pas complètement histo. Parce que on peut pas non plus se permettre de juste venir vivre devant eux et espérer que la personne qui va passer va immédiatement comprendre ce qu'elle a sous les yeux. C'est pas possible. Ce que nous, on a envie de faire, c'est-à-dire intéresser les gens à l'histoire, leur faire toucher du doigt cette matière-là, au sens propre comme figuré, parce qu'on leur fait essayer les vêtements quand on peut, on leur fait essayer un peu, quand on peut, on les fait rentrer dans les tentes, on leur fait essayer des pièces d'armure. Voilà, donc si on veut qu'ils puissent vraiment s'immerger et profiter de ce qu'on leur amène, et que ce que l'on fait serve à quelque chose dans la médiation historique, eh bien, il faut qu'on fasse des compromis.
Faire de la reconstitution historique, c'est pas une activité commune, surtout ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui t'anime et qui te donne envie de continuer? Voilà, le petit mot de la fin.
Ce qui m'anime, l'envie de transmettre l'histoire, l'envie de faire découvrir ou redécouvrir cette période-là médiévale qui, moi, me passionne. Encore une fois, l'expérience pour les enfants, hein, j'y reviens, mais c'était quelque chose qui était hyper important pour nous, parce qu'on sait à quel point c'est important dans l'imaginaire des petits d'avoir ces supports potentiels-là pour se faire une image, en fait, d'une période. Et si on peut en plus leur donner une image qui est, entre guillemets, la meilleure possible, alors là, c'est parfait. Et après, ce qui, moi, me pousse à continuer, malgré le temps que ça prend, entre guillemets, c'est que justement, pour moi, il n'y a pas de malgré. C'est une immense passion, donc je suis content d'y donner du temps. Et si je pouvais, j'en donnerais plus. Et si je ne pouvais faire que ça, je ne ferais que ça. Sauf qu'il y a un moment, une passion, c'est on peut pas toujours en faire son métier. Donc voilà, je donne le plus de temps possible, toujours heureux de pouvoir intervenir année après année auprès du public, dans des sites qu'on connaît, dans des nouveaux sites, d'aller découvrir de nouvelles personnes qui nous attendent là-bas et d'intégrer toujours plus de monde dans notre joyeuse petite compagnie. Des gens passionnés comme nous qui auront envie, comme moi, chaque année, de remettre le couvert et de redonner du temps, de l'énergie et de la passion à cette belle petite entreprise de médiation.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume.
L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.